Tournoi du service politique de RFI, bientôt 9h10 à Paris. Restez à l'écoute de la Radio du Monde, à suivre Archives d'Afrique.
Radio G 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour. Le 25 novembre, c'est la journée contre les violences faites aux femmes. Certes, le mouvement MeToo a largement mobilisé l'opinion contre les pratiques inacceptables auxquelles se livrent encore nombre de nos contemporains. Et une journée, si solennelle soit-elle, ne changera pas la face du monde. Quoique. Autrefois, les femmes appelées sorcières, pour mieux pouvoir les détruire, étaient déjà les premières femmes maltraitées et les victimes radicales du machisme et du fanatisme. Aujourd'hui, en Iran, les cheveux de Mahsa Amini dépassant d'un voile réglementaire lui coûtent la vie. Et les Afghanes, désespérés par le régime des talibans, se voient interdits d'éducation et doivent se cloîtrer dans leur tchador, n'existant que par un seul regard derrière leur grille de tissu. Bref, le combat n'est pas vain. Nous vous proposons des extraits d'un chapitre du livre de Mona Chollet, « Réinventer l'amour » ou « Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles » paru en 2021 aux éditions Zone. Et en parallèle de cet essai, des pages du roman épistolaire qui a défrayé la chronique « Cher connard » de Virginie Despentes, paru en 2022 aux éditions Grasset.
L'effet, tout d'abord. Nous avons évoqué les sorcières, mais plus près de nous, voici ce qu'écrit Mona Chollet. À l'époque où je travaillais pour les premières fois sur les violences conjugales, il y a 15 ans, les mémoires de Tarita Teripaya, relatant sa vie avec Marlon Brando, venaient de paraître. Elle y racontait comment, Après lui avoir réclamé avec insistance un enfant tahitien, il avait tenté de la faire avorter de force quand elle était tombée enceinte, parce que cela ne l'arrangeait plus. Comment il l'avait, à deux reprises, battue jusqu'au sang. Il était allé jusqu'à la mettre en joue avec un fusil et avait été à deux doigts d'appuyer sur la gâchette. Paris Match en publiait les bonnes feuilles le 27 janvier 2005, sous le titre « L'amour monstre », le même titre que pour le meurtre de Marie Trintignant. Et le journal Elle, sous le titre « Mon amour fou avec Brando », le 31 janvier 2005. Depuis 35 ans que je dévore les magazines, j'ai ingurgité des doses impressionnantes de cette littérature où « amour » rime avec « coup », brimade, oppression.
Notre révérence pour les émotions des hommes. Fille d'un homme violent, Véronique se souvient que son père répétait sans cesse « ta gueule, ta gueule ». Il ne supportait pas le dialogue, pas la moindre contradiction. Non seulement les agresseurs cherchent à annuler symboliquement et ou physiquement l'autre, mais quand ils vont jusqu'au meurtre, cette annulation trouve un prolongement dans le traitement de l'affaire par la presse. Annie Coel, Patricia Mercader, Helga Sobota, qui ont dépouillé plusieurs centaines de comptes rendus de procès de meurtres conjugaux parus dans deux quotidiens régionaux, Le Progrès et Le Dauphiné Libéré, entre 86 et 93, ont constaté que, souvent, ils faisaient disparaître la victime, par exemple avec des titres du genre « Meurtre de la rue Baraban »,« 11 ans de réclusion pour René » était... Quand en 2017, les Incorruptibles ont publié un entretien avec Bertrand Cantat, Annie Coel y a retrouvé le même procédé. Marie Trintignant était réduite à un nom de lieu, Vilnius. Bertrand Cantat présente lui aussi tous les signes de cet égocentrisme envahissant. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, après avoir porté à Marie Trintignant les coups qui allaient lui être fatals, il a téléphoné au mari de celle-ci, Samuel Benchetrit, qu'elle avait quitté pour lui. Puis il a fait venir dans sa chambre d'hôtel son frère, Vincent Trintignant, qui se trouvait aussi à Vilnius. Il s'est longuement épanché auprès d'eux, évoquant sa jalousie, ses tourments, occupant le centre de l'attention pendant que sa victime gisait, inconsciente, dans le lit où il l'avait couchée. Lors de son audience devant le juge, quelques jours plus tard, il disait « J'ai la culpabilité profonde d'avoir tué la personne sans laquelle je suis incapable de vivre. » Étrange phrase qui invitait à s'émouvoir de son sort à lui, comme s'il était coupable avant tout envers lui-même. Et il se mettait à sangloter en évoquant le moment où, à leur arrivée à l'hôpital au matin, Vincent Trintignant, en comprenant que l'état de sa sœur était désespéré, l'avait jeté dehors. La scène a de quoi méduser. C'est son exclusion qui le fait pleurer et non sa culpabilité ou la mort annoncée de la femme qu'il dit aimer. Et puis, comment pouvait-il imaginer qu'on l'autoriserait à rester aux côtés de celle qu'il avait massacrée ?
Mona Chollet
évoque les différentes formes de violence. La violence peut aussi être uniquement psychologique. Largement autobiographique, le film de Mai Wen, Mon Roi, en 2015, avec Emmanuel Berco et Vincent Cassel, montre bien comment on peut détruire une femme sans lui porter un seul coup. Pour Marie-France Irigoyenne, les attaques psychologiques dans le couple font tout aussi mal que les agressions physiques et ont des conséquences plus graves. Depuis 2010, elles sont, elles aussi, punies par la loi. Il est impossible de dissocier les deux. La violence physique prolonge et consolide une entreprise générale de subjugation. Le dénigrement permanent, les humiliations, la froideur, les menaces, les manœuvres visant à isoler la femme, à la déstabiliser, provoquent en outre une usure mentale qui peut mener au suicide.
N'insiste n'existe pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutu, hey. Je te dis que je suis foutu. Me laisse, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Dans ma tête. N'insiste pas, j'ai tant d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu caches bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Ou que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête.
Dans un tout autre style, Virginie Despentes décrit cette violence qui poursuit les femmes aussi sur leur lieu professionnel. J'ai été embauchée dans cette maison d'édition parce que j'avais eu les diplômes, fait les bons stages et parce que j'étais travailleuse, appliquée, ponctuelle, que j'apprends vite. Et j'ai aussi été embauchée parce que j'étais jeune, mince, long, cheveux, brillant, grands yeux clairs, peau très blanche, que je m'habillais bien, que mes ongles étaient peints. C'est aussi ma jeunesse qu'on embauchait. Et face à lui, je n'ai jamais su m'y prendre. J'ai bafouillé, reculé, détourné les yeux, quitté la pièce. Je me suis assise contre la portière du taxi, j'ai serré les genoux, j'ai rougi, j'ai ri jaune. Je suis partie tôt, j'ai enlevé la main, j'ai rasé les murs. J'ai porté des chaussures plates. J'ai couru autour d'un bureau quand il était bourré et il trouvait ça drôle. J'ai serré les dents quand il me tripotait. J'ai quitté les lieux en courant un soir. J'ai galopé comme un lapin pathétique. Des gens m'ont vu partir en larmes, défaite. Mais personne ne voyait le problème. Ils ne voyaient que le pittoresque de la situation. L'auteur macho et la petite attachée de presse. Oscar me téléphonait en pleine nuit et j'avais peur de me rendormir. Il frappait à la porte de ma chambre à l'hôtel et j'avais peur de me rendormir. Je vomissais avant d'aller travailler, mais je disais bonjour en souriant, comme si de rien n'était, parce que si j'avais crié, j'étais l'hystérique qui ne sait pas contrôler ses nerfs. Si je faisais la gueule, je n'étais pas professionnelle, incapable de faire un effort. Et c'était comme dans les cauchemars, quand tu veux hurler, mais aucun son ne sort. Je hurlais en silence et autour de nous, la situation amusait la galerie. On attendait que je cède. Il me faisait la cour, je me faisais désirer, chacun tenait son rôle. Quand il dit aujourd'hui qu'il ne pouvait pas se douter que ça me détruisait à ce point, ce qu'il veut dire en réalité, c'est que j'étais la seule à ne pas trouver qu'il était génial. L'auteur bourré, macho, fils de chômeur des aciéries de l'Est, l'enfant prodige qui se comportait exactement comme on l'attendait d'un putain de prolon de son acabit. Il était le grand auteur qui vend beaucoup de livres. Quand ça a dégénéré et qu'il s'est mis à trop se plaindre, on a dit « on peut changer l'attaché de presse, on ne va pas se passer du grand auteur ». Et à ce que je sache, Oscar Jaillac ne s'est ensuite jamais inquiété de savoir ce que j'étais devenue. Je suis revenue pour le lui dire, je n'ai pas été réemployée. Nous sommes dans le monde des centaines de milliers à dire la même chose, et ils sont des centaines de milliers de patrons à le prendre à la rigolade, à nous dire « on n'entend rien ». Ils ne changent pas de disque. Ils convoquent les féministes mortes et enterrées pour dire qu'avant c'était mieux, puisque même le féminisme leur appartient. Ce n'est pas la bonne Simone qui se serait plainte d'une main au cul. Non, Simone, c'était la belle époque. C'était les violets qui se taisent, les moches qui rasent les murs, les lesbiennes qui se cachent et le petit personnel engrossé à la va-vite et qu'on envoie crever ailleurs. Le bon vieux temps de la domination bien comprise par les dominés.
Au-delà des faits eux-mêmes, nous entendons l'interrogation perpétuelle. Mais pourquoi ? Pourquoi encore ? Pourquoi toujours ? En effet, pourquoi cette violence traverse-t-elle le temps, les milieux, les lieux ? Les tentatives d'explication de Mona Chollet traversent aussi les âges. En 47, dans un manuel de conseils matrimoniaux, un médecin américain s'adressait ainsi aux épouses. « N'ennuyez pas votre mari avec vos petits problèmes et vos plaintes quand il rentre du travail. Offrez-lui votre écoute. » Laissez-le vous raconter ses problèmes, les vôtres vous sembleront dérisoires en comparaison. Rappelez-vous que votre rôle le plus important est de bâtir et d'entretenir son ego, qui est bien malmené au travail. Cette primauté des émotions de tous les hommes, pas seulement des hommes violents, ce réflexe de s'identifier à eux, à leur vécu, à leurs intérêts, cette idée que le rôle d'une femme est de tout comprendre, de tout pardonner, nous les avons profondément intégrées. La philosophe Kate Mann a forgé un terme pour désigner ce phénomène, empathy, de him, lui, et sympathy, sympathie ou compassion. Battue par son petit ami qu'elle a quitté sur le champ, Cécile, une trentenaire parisienne, a décidé de porter plainte. Mais son père le lui a déconseillé, estimant que ça arrive à tout le monde de faire une connerie. Spontanément, il se mettait donc à la place de l'agresseur et non à la place de sa propre fille, qu'il avait pourtant vue défigurée.
Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, oh, oh, ouh. Si j'étais un homme, oh, contre les murs, je draguerai les darons, les ados, les nonnes et les putes. Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière. Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire. Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme. On se dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine. C'est dans la nature, le mal est dominant.
Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments. Je ferais des promesses que je ne saurais tenir. Te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Triste aller à du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, ah, ah, ou. 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 Aveuglé, j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère. Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman. Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Celui qui prend soin de sa mère, qui se conduit en gentleman. Des hommes de valeur, des hommes fiers. L'ami, le bon mari, le frère et le père. Ah, oh, oh. Si j'étais un homme, si j'étais un homme.
Je me propose de mettre en évidence les mécanismes qui ressortent des témoignages et des analyses au sujet de la violence conjugale. Étudier les ressorts profonds de ces violences peut nous permettre de mieux comprendre les interactions entre les femmes et les hommes, d'une manière générale, et ce qui pose problème dans la façon différenciée dont elles et ils sont éduqués. Et cela peut aussi, peut-être, nous permettre de mieux prévenir ou déjouer les relations toxiques. Je précise d'emblée que l'écriture de ce chapitre a été éprouvante et qu'il peut être d'une lecture difficile. Je le fais en étant très consciente des limites de cette démarche. D'abord, l'amour et le couple sont probablement le lieu où nous sommes le plus vulnérables et où même les mieux armés, même celles qui ont une conscience féministe développée, peuvent se retrouver démunies. L'histoire de Marie-Alice Dibon, tuée par son compagnon en avril 2019 à l'âge de 53 ans, invite à l'humilité. Elle-même avait rappelé le décompte des féminicides sur Facebook et elle avait offert à une amie prise dans une relation toxique le livre de Marie-France Irigoyen, Le harcèlement moral, en lui disant qu'elle ne voulait pas lire un jour son nom à la rubrique des faits divers. Elle était lucide pour les autres, mais pas pour elle-même, déplorait cette amie après sa mort. Par ailleurs, même, la lucidité ne suffit pas. Certes, Marie-Alice Dibon et ses proches ont sous-estimé le danger qu'elle courait en continuant à cohabiter avec son compagnon, alors qu'elle lui avait annoncé son intention de le quitter. Mais même si elle était partie plus tôt, il aurait très bien pu s'arranger pour la retrouver. Et si elle avait demandé la protection dont elle avait besoin, rien ne dit qu'elle l'aurait obtenue.
La violence au sein du couple profite de la fragilité de la position des femmes dans la société. Se référant aux travaux de sa consœur américaine Sandra Libartki, la philosophe Camille Froide-Vaumetri parle de la honte comme structurellement féminine. Elle la définit comme un sentiment permanent d'inadéquation par lequel les femmes se sentent imparfaites, inférieures ou diminuées, ce qui permet au mécanisme de la domination masculine de perdurer. Ainsi, la honte devient un véritable mode d'être au monde féminin qui fait le lit de la violence conjugale et des féminicides. Il ne s'agit surtout pas de prétendre que par leur manque de confiance en elles, les femmes susciteraient les mauvais traitements qu'elles subissent. Nous reprocher un conditionnement qui nous dessert reviendrait à nous infliger une double peine. Les seuls responsables des violences sont ceux qui les commettent. et la culture qui les y autorise. Culture que nous allons tenter d'étudier ici. Mais de même qu'on peut rappeler haut et fort que la seule cause du viol, c'est le violeur, tout en enseignant l'autodéfense physique, on peut chercher à développer une forme d'autodéfense psychologique.
Alors qu'elle est innocente, la femme victime de violence se laisse persuader qu'elle est coupable. Et alors qu'il est coupable, l'homme habitué à considérer que tout lui est dû se pense toujours innocent quand il n'estime pas carrément être la victime. S'ils sont assignés en justice, certains agresseurs répliquent parfois en déposant eux aussi une plainte contre leur compagne. Au sentiment d'illégitimité systématique inculqué aux femmes, répond le sentiment masculin d'être dans son bon droit, quoi qu'on fasse. Quand Stéphane est placé en garde à vue pour avoir enfermé Diane et ses enfants dans la maison pendant 24 heures, puis avoir menacé Diane avec un couteau, il raconte partout que sa femme l'a fait mettre en prison pour une simple dispute. Ensuite, comme l'expérience l'a déprimé, il va s'acheter un ordinateur avec l'argent du compte commun. Nathalie se souvient du déni catégorique de son mari au matin, face à son œil au beurre noir. Oh, « C'est pas moi qui ai pu te faire ça !» Puis devant son insistance, « Dis donc, tu marques facilement parce que je t'ai à peine touchée !» Cécile raconte que, un jour, son mari a lancé son poing en direction de son visage. « J'ai eu la présence d'esprit de pousser ma tête et son poing est arrivé dans un plat. Et là, il s'est délabré complètement le doigt jusqu'au centre de la main. » Il a d'ailleurs perdu son doigt, puisque tous les tendons étaient pétés par la violence du choc. Il a eu deux opérations. Son doigt est tout tordu, il n'en retrouvera plus jamais l'usage total. C'est moi qui l'ai amené à l'hôpital, et c'est moi la vilaine. En somme, il lui reprochait de ne pas avoir obligamment laissé son visage dans la trajectoire de son poing pour lui épargner les conséquences de ses propres actes.
Les clichés sur les femmes battues et contentes de l'être perdurent. En témoigne la chanson de Boris Vian, dont nous écouterons attentivement la fin.
Levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rablé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, John, John, Johnny, envoie-moi au ciel. Boum, fais-moi mal, John, John, Johnny, moi j'aime l'amour et qui fait boum. Il va me faire mal, il va me faire mal, il va me faire mal, il va me faire mal. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un air bête, il comprenait rien le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Mais fais-moi mal, John, John, Johnny, je suis pas une mouche. Fais-moi mal, John, John, Johnny, moi j'aime l'amour et qui va boum. Va-t-il me faire mal? Va-t-il me faire mal? Enfin va-t-il me faire mal? Va-t-il me faire mal? Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça a réveillé au six-sec et il m'a dit arrête ton char, tu me prends vraiment pour un bon mec. Je vais t'enfiler de la série noire. Oh, tu fais mal, John, John, Johnny, pas avec les pieds. Si, tu fais mal, John, John, Johnny, moi j'aime pas l'amour qui fait bling. Il m'a fait mal, oui, il m'a fait mal, il m'a fait mal, alors là, il m'a fait mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant, j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne crierai. Fais-moi mal, John, John, Johnny, envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, John, 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 j'aime bien l'amour qui fait boum. Oh Johnny, la vache, oh, j'en ai marre alors.
Autre éclairage donné par Virginie Despentes dans son style vif. C'est une histoire d'éducation. On m'a tant répété, quand j'étais petite, que le plus beau, c'était de mourir par amour. Il n'y avait pas de destin plus tragique pour une femme, sauf être une mère qui souffre beaucoup. C'est toujours le malheur qu'on vénère dans la maternité, jamais l'épanouissement. Et la mort tragique pour les amantes. Si tu aimes le sexe avec un homme, tu dois être prête à mourir. On supporte très bien l'idée que les femmes soient tuées par les hommes au seul motif qu'elles sont des femmes. Sauf si elles sont des petites filles ou des vieilles dames. Ce qui veut dire qu'on supporte très bien l'idée qu'une femme soit victime d'un homme tant qu'elle est en âge d'avoir une sexualité active. Même si elle est mariée, même si elle est maman, même si elle est bonne sœur, à partir du moment où elle est pubère jusqu'à ses 75 ans, elle est une victime acceptable. Et je crois que c'est parce qu'elle est éventuellement sexuelle. La société comprend l'assassin. Elle le condamne, évidemment. Mais avant tout, elle le comprend. C'est plus fort que lui, que ce soit sa femme ou une inconnue. Imagine qu'à la place des femmes qui sont tuées par les hommes, il s'agisse d'employés tués par leur patron. L'opinion publique se raidirait davantage. Tous les deux jours, la nouvelle d'un patron qui aurait tué son employé, on se dirait « ça va trop loin ». On doit pouvoir aller pointer sans risquer d'être étranglé ou criblé de coups ou abattu par balle. Si tous les deux jours, un employé tuait un patron, ce serait un scandale national. Pense à la gueule des gros titres. Le patron avait déposé 3 plaintes et obtenu un ordre d'éloignement, mais l'employé l'a attendu devant chez lui et l'a abattu à bout portant. C'est quand tu le transposes que tu réalises à quel point le féminicide est bien toléré. Les hommes peuvent te tuer. Ça flotte au-dessus de nos têtes. On le sait. C'est comme si on te recommandait de jouer à la roulette russe. Je n'ai jamais eu envie de mourir, mais j'ai aimé les drogues dures, les hommes violents et la vitesse. On m'aura beaucoup plus sermonné sur les drogues dures que sur les hommes.
Afin de clore sur une note plus optimiste, reprenons un passage de Mona Chollet. D'autres articles dressent le portrait de couples qui, selon toute apparence, ont réussi à s'aimer sans se faire plus de mal que ce qu'imposent les fluctuations des sentiments. Les acteurs René Mara et Joaquin Phoenix, les artistes Niki de Saint-Phalle et Jean Tiguely, les peintres David Hockney et Peter Schlesinger. Et croyez-le ou non, il y a beaucoup à raconter au sujet de ces couples-là aussi. Mais ça fait drôle, on n'a pas l'habitude. Pour que ni les couples de légende, ni les couples anonymes des prochaines décennies ne perpétuent la même farandole sinistre, peut-être devrions-nous suivre les préconisations de Bell Hooks. Ne pas penser à l'amour comme à un simple sentiment qui autorise toutes sortes de comportements, mais comme à un ensemble d'actes. L'illumination lui est venue de l'auteur du développement personnel, Scott Peck, qui propose de définir l'amour comme la volonté d'étendre son moi dans le but de nourrir sa propre croissance spirituelle et celle de l'autre, comme le fait de travailler à la fois à son propre épanouissement et à celui de l'autre. Dès lors, remarque Bell Hooks, il devient clair que nous ne pouvons pas prétendre aimer si nous sommes nuisibles ou violents. Nous ne pouvons pas prendre au sérieux, dit-elle, un homme qui bat ses enfants et son épouse et qui, au bar du coin, clame à quel point il les aime. Nous ne pouvons pas dire comme cette mère à sa fille en couple avec un homme violent. Certes, il a un caractère difficile, mais il faut faire avec. L'important, c'est qu'il t'aime. De même, cette nouvelle définition de l'amour suffit à balayer le mythe du crime passionnel. Denis de Rougemont le disait lui aussi quand il analysait le goût morbide des Occidentaux pour la passion. Être amoureux n'est pas nécessairement aimer. Être amoureux est un état. Aimer, un acte. À la passion dans laquelle l'autre n'est qu'un prétexte, une illusion, le philosophe suisse opposait un amour qui accepte l'autre tel qu'il est et travaille pour son bien.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo es claro. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbina, ladrido, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y lo está alumbrando la gruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellas anduve ciudades y trancos, playas y desierto, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Lu par Claudine, Monique et Anne, ce montage des textes de Mona Chollet et de Virginie Despentes n'est pas juste pour le 25 novembre, jour institué contre les violences faites aux femmes. Il y eut en France, en 2021, selon l'information de TV5 Monde, 122 femmes mortes, tuées sous les coups d'un homme, mari, compagnon ou ex, soit 20% de plus que l'année précédente. Soyons vigilants, vigilantes, éduquons nos garçons et nos filles pour que cesse ce triste décompte. Les musiques que vous avez entendues sont l'hymne du MLF, chanté par 39 femmes, Camille Lelouch, Sheila, Boris Vian et Colette Magnier. Merci à Claude Michel pour l'enregistrement et le montage.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre. Rendez-vous sur le site de Radio G 101.